Voilà. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Parole du Seigneur, Luc chapitre 11, versets 5 à 13. Frères et sœurs, mes bien-aimés. Mercredi dernier, j'ai attiré votre attention sur quelques attitudes à privilégier dans votre vie de prière. Je faisais cela parce que depuis déjà au moins 3 mercredis, je vous parle de la prière comme moyen. Hein, comme moyen de croissance en maturité spirituelle. Alors cela m'amène à creuser un peu le sujet de la prière. Mais l'étude ne porte pas a priori sur la prière. L'étude porte sur la maturité spirituelle et en regardant des éléments qui favorise la croissance de la maturité spirituelle, nous sommes arrivés à la prière comme étant un des moyens incontournables à côté de la communion fraternelle qu'on n'a pas nécessairement regardé, à côté de la persévérance chrétienne à l'Église, aux assemblées publiques, études bibliques, tant de prières, tant de jeûnes, et la parole de Dieu. C'est ce qui nous amène à parler de la prière autant. Et comme c'est un sujet passionnant, je me suis attardé un peu sur le sujet de la prière. C'est ce qui fait que j'ai pu vous entretenir après avoir parlé de la persévérance dans la prière, et j'ai pu parler mercredi de ces attitudes à privilégier dans la vie de prière, dans sa vie personnelle de prière, à chacun et à chacune. Aujourd'hui, on va regarder quelques autres attitudes en plus de celles-là que je vous avais et à partager mercredi dernier. va voir que il y a quelques autres attitudes à considérer. C'est ce qu'on va faire ce soir. Mais avant, j'aimerais bien, il est d'usage, il est même recommandé de passer et de rappeler ces attitudes-là qu'on avait considérées et mercredi dernier, avant de pouvoir en considérer de nouvelles ce soir, si Dieu le veut. Une des attitudes qu'on a vu qu'il fallait privilégier dans notre vie de prière, c'est la sincérité. Cela veut dire que nous sommes appelés à prier en montrant un intérêt réel pour ce que nous faisons ou ce que nous demandons. C'est-à-dire pour la prière que nous faisons et pour ce que nous demandons dans cette prière. Alors, j'ai parlé dans ce cas de l'exemple de Jacob à Péniel, quand il dit à l'ange du Seigneur et donc au Seigneur lui-même, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Je parlais de l'idée de résolution, de décision, de fermeté et dans sa démarche de prière. J'ai évoqué aussi le cas de Daniel, en Daniel 9, le verset 19, qui prie en montrant à Dieu qu'il prend très au sérieux sa démarche de prière, qu'il était très attaché et à ce qu'il faisait, à ce qu'il cherchait. Il prenait au sérieux la personne à qui il s'adressait, en l'occurrence Dieu. Il était bien au fait de ce qu'il faisait. Il était conscient de l'enjeu, de sa démarche. Quand Daniel dit au Seigneur, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, suivant Daniel chapitre 9 et le verset 19. Nous aurons même à regarder la prière de Daniel pour une autre raison. Si ce soir ou à d'autres moments, si Dieu veut. Nous avons également, en plus de cela, de prier avec sincérité. Hein? J'ai regardé aussi avec vous l'importance de prier en toutes circonstances. L'idée, c'est de ne jamais porter seul les fardeaux alors que nous avons quelqu'un à qui les remettre, vers qui les porter. Hein? En l'occurrence, notre Dieu qui nous promet, eh bien, de solutionner nos problèmes. Hein? Donc, et en disant cela, je parlais de l'importance de prier en toutes circonstances, dans les temps où nous avons un vent de face et dans les temps où nous avons un vent dans le dos. C'est-à-dire quand ça va très bien et quand ça va moins bien. Nous ne devons pas faire comme certaines personnes qui prient quand ça va bien, qui ne prient pas quand ça va mal. Il y en a d'autres où quand ça va moins bien. Il y en a d'autres qui prient quand ça va moins bien et quand ça va très bien, ils ne prient pas. Et dans certains cas, on les voit même pas à l'église quand ça va très bien. Je vous avais dit que pour celui qui veut grandir en maturité, ou même celui qui est déjà mature, les choses ne doivent pas se passer comme ça. Comment elles doivent se passer? Mais nous devons prier la personne qui recherche la maturité, ou la personne mature déjà, prie en tout temps. Quand ça va plutôt bien, quand ça va moins bien. Dans les temps de succès comme dans les temps d'échec. Dans les temps de vent d'en face, de vent de face ou vent dans le dos. Il y a C'est ce que je vous avais dit. J'avais attiré votre attention aussi sur le fait de prier en tout lieu. Prier en tout lieu, prier en toute occasion, on prie seul, on prie à la maison, on prie à l'église, on prie au travail, on prie maintenant, en arrière de notre ordinateur, de notre tablette, de notre cellulaire, au volant de sa voiture, quand on est avec le boss ou le patron, dans un culte d'adoration. Le fait est que c'est une attitude à privilégier de ne pas choisir où prier. On peut prier partout. Dans le Nouveau Testament, on peut prier partout. Ah, puisque nous prions en esprit, puisque nous adorons en esprit et en vérité. Alors oui, donc ce qui fait que nous pouvons prier partout, même dans les endroits où vous ne pourriez pas imaginer, vous pouvez prier. Alors, troisième élément. J'espère que vous n'oublierez pas. Un quatrième élément, c'est qu'il faut prier avec foi. La prière fervente est une prière gagnante, est une prière efficace. Il s'agit de croire que nos prières seront toujours entendues, toujours exaucées, c'est autre chose, mais toujours entendues, au moins oui. Toutes nos prières seront entendues et par le Dieu que nous servons, parce que le Dieu que nous servons est vivant. Il est le seul Dieu vrai, vivant, réel et authentique. Alors, en tant que tel, il écoute, il est conscient, il vit, mieux, il règne. Alors, il sait écouter. C'est un Dieu qui écoute, c'est un Dieu qui entend. Alors, ayons la conviction, l'assurance que la personne à la porte de laquelle nous allons frapper est disponible à nous ouvrir, à nous écouter. Et bien important. Incidemment, le Christ dira, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Lorsque nous allons nous approcher de Dieu, nous devons le faire dans l'assurance que nous avons déjà reçu ce que nous nous apprêtons à lui demander à genoux en prière. Très important de comprendre cela. Et j'ai lu le témoignage d'une église aujourd'hui en préparant l'enseignement de ce soir. J'ai lu deux témoignages. Et en parlant de tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir, dit le Christ, Matthieu, Marc chapitre 11, verset 24. J'ai lu un témoignage d'une église haïtienne qui est encore en Haïti et qui priait. Cette église avait loué un local d'une institution que je ne nommerai pas. Il avait loué le local d'une institution que je ne nommerai pas. Et cette institution était très fine parce que c'est une institution chrétienne, c'est une école, mais c'est une école chrétienne, était très fine avec cette église-là pour l'héberger en attendant que cette église trouve un lieu pour adorer le Seigneur à lui, à elle, pardon. Et là, l'église était en prière depuis des années. Et en plus, l'église avait déjà acquis un terrain. Mais l'église n'avait pas de sous pour construire sur ce terrain-là. Après des années de prière, l'église commençait à changer son plan. Ou alors songeait à changer son plan. Et jusqu'à ce que les leaders de l'église se sont mis ensemble pour faire une prière. La prière, c'était de demander à Dieu d'envoyer de l'argent pour clôturer le terrain qu'ils avaient et de bâtir quelque chose qui ne serait pas un temple comme tel, mais juste pour sortir de l'obligation de la location qui commençait à devenir à coûter trop cher. Ils ont prié. Un samedi, tout le monde s'est réuni ensemble pour prier de 6 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir. Je connais le nom du leader. Il y en a parmi vous, peut-être qu'ils connaissent. Et ils ont prié de 6 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir. Je vous parle de persévérance dans la prière, hein, et je vous parle de la conviction que Dieu vous écoute, que Dieu vous entend, ok? C'est ça le mot, c'est ça la raison de vous partager ce témoignage que j'ai lu aujourd'hui. Finalement, au bout de ce temps de prière, de 6 heures à 5 heures, les leaders sont rentrés chez eux. Et un beau jour, le pasteur a reçu un montant d'argent qui lui a permis de faire ce que je vous avais dit, qui était leur but de prière. Il a reçu un montant d'argent. Bien entendu, il y avait d'autres montants qu'ils avaient déjà reçus, mais ce montant-là était très substantiel. Et avec ce montant seulement, ils pouvaient clôturer le terrain et bâtir l'endroit provisoire pour adorer le Seigneur. Le pasteur qui a reçu l'argent de la mission aux États-Unis lui a dit que la mission a dit au pasteur que les donateurs voulaient rester anonymes. Le pasteur acquiesce, il a partagé l'information avec son conseil d'église. Voici, on a tel montant d'argent. La branche américaine nous a appelés, mais on veut taire le nom du. Le donateur veut taire son nom. Dans le reste du témoignage, c'est qu'avec cet argent-là, ils ont été capables de faire bien au-delà d'un temps provisoire pour adorer le Seigneur. Mais ils priaient depuis 14 ans. Je le souhaite à personne. Mais ils priaient depuis 14 ans. C'est au bout de 14 ans qu'ils ont reçu cette délivrance. Tout ça, c'est pour vous dire que nos prières ne sont jamais allées à des oreilles qui n'écoutent pas. J'ai un autre témoignage à vous partager. Si je n'ai pas le temps de toucher la matière du jour, c'est pas grave. Le Saint-Esprit voudra que vous vous contentiez de ce témoignage. J'ai un autre témoignage à vous partager. Il y avait une église qui fonctionnait dans la clandestinité dans la Russie soviétique de l'époque communiste. L'église se réunissait dans la clandestinité. Les gens se surveillaient l'un l'autre. Il a fallu du temps avant d'admettre quelqu'un en son sein. L'Église n'avait pas de Bible. Il y avait des gens qui voulaient approcher l'Église. Après plusieurs enquêtes, l'Église les acceptait. Mais l'Église ne pouvait pas enseigner à ces gens-là. L'Église ne pouvait pas commander des Bibles. Et l'Église se jetait en prière pour avoir des Bibles. Quasiment le pasteur et quelques autres bien-aimés qui avaient des Bibles. Les chrétiens voulaient posséder des Bibles. Ils entendaient parler de la Bible, ils voyaient la Bible, et il y en a qui connaissaient la Bible, mais ils ne pouvaient pas posséder une Bible, puisque la Bible n'était pas en vente. Donc, les gens qui rentraient avec les Bibles, c'est comme si tu rentrais avec de la drogue dans la Russie communiste. Vous le savez mieux que votre pasteur. Importer la Bible, un paquet de Bible à l'époque, c'était comme aujourd'hui importer de la cocaïne ou d'une n'importe quelle sorte de drogue que vous connaissez, du fentanyl là. Et l'Église s'est jetée en prière pour cela. C'est des témoignages que je lis encore un dans mes recherches personnelles, dans mes recherches pastorales comme étudiant de la Bible. Et l'Église s'est jetée en prière, l'oratoire. Les gens priaient, comme vous faites habituellement. Non, priaient. Les gens priaient, ils priaient, ils priaient, ils priaient, ils priaient, ils priaient, ils priaient. Il priait, il priait, il priait, il priait. Ça a pris des années. Ils ne se sont pas découragés. Ils gémissaient devant Dieu nuit et jour, dans la clandestinité de sur quoi? Pour simplement demander à Dieu de leur permettre un jour d'avoir assez de Bible, au moins pour une Bible par personne, que chaque fidèle de l'Église puisse posséder une Bible. Frères et sœurs, il y a un grand homme de Dieu américain qui voyait en songe Dieu qui lui dit d'aller à telle église. Il dit, mais Seigneur, je ne peux pas aller dans ce coin-là. Comment je vais faire pour m'y rendre? L'Éternel Dieu lui dit, tu vas passer par telle frontière, tu vas tomber en Allemagne communiste, l'Allemagne de l'Est à l'époque, et puis tu vas atteindre cette église. Il s'est levé, il est parti. Mais pendant qu'il s'en allait là-bas, il a fait de la provision de Bible. Il a acheté plusieurs Bibles. Il dit que si le Seigneur m'envoie vers une église, moi je vais aller avec des Bibles. Peut-être qui sait. Il y a des gens qui peuvent en avoir besoin. De la Hollande, qui a une frontière commune avec l'Allemagne de l'Est, il est allé avec, il a loué une Volkswagen. Il a rempli la Volkswagen de Bible. Et entre-temps, il a mis une sorte de jaquette sur lui. Il a chargé tout son corps avec des Bibles, toutes les poches du jaquette avec des Bibles. Il a trouvé quelques bien-aimés en Allemagne de l'Est qui étaient moins pires que la Russie comme telle et qui l'ont aidé et ils ont traversé avec les Bibles. Et quand il a laissé son paquet à la frontière entre l'Allemagne et la Russie, il a trouvé les coordonnées de cette église. Je vous fais grâce des détails, comment il les a trouvées, avec qui il a parlé, qui il a rencontré pour écouter les choses. Il a trouvé les coordonnées de l'église. Il arrivait, les gens étaient réunis. Ça a été long avant que les gens l'acceptent en leur sein. Il a adoré le Seigneur avec eux. Pendant qu'il est au fond de l'assemblée, il parlait à quelqu'un. Et la personne lui expliquait ses problèmes. Mais la personne lui dit, mais tous ces problèmes, le fait qu'on est dans la clandestinité, c'est des problèmes, mais notre plus grand problème, c'est le fait qu'on n'a pas accès à la Bible. Il a dit au frère, j'ai une Bible dans ma poche. Est-ce que je peux te la donner? Probablement, c'est des petites Bibles. Le frère a dit oui. Il lui a donné cette Bible. Le frère n'en revenait pas que sa main pouvait toucher à une Bible. Le frère a touché une sœur à côté. La sœur a touché un autre frère. Regardez une Bible que j'ai. Le frère américain dit, j'en ai pour les toits. Il dit, donnez-nous-en. Il ouvre son jaquette. Il donne une Bible à chacun. Ça lui a fait quatre Bibles. Finalement, on a arrêté le service. On a dit, voici, on a quatre Bibles. Le Seigneur nous a bénis, on a quatre Bibles. Le frère a dit, non, j'en ai un. Et si je m'en vais dans ma Volkswagen avec vous, qui est garée à la frontière, seriez-vous d'accord que j'aille vous chercher d'autres encore? Les gens ont dit oui. Vous imaginez la suite? L'Église a été inondée de Bibles. Tout cela a fait un total de plusieurs dizaines de Bibles. C'est alors que le frère apprenait que l'Église priait le Seigneur pour avoir assez de Bibles pour tout le monde. Ça ne se pouvait pas que c'est seulement le pasteur qui avait accès à la Bible, compte tenu de toutes les contraintes qu'il y avait. Les gens lui ont rendu témoignage. On a commencé à prier le Seigneur depuis tant d'années que je ne me rappelle pas, je ne peux pas vous raconter n'importe quoi. Depuis tant d'années, j'ai ce témoignage sur mon ordinateur. Et depuis tant d'années qu'on priait le Seigneur, c'est alors que le pasteur américain comprenait pourquoi le Seigneur lui avait demandé d'aller visiter cette église-là. Tout ça, c'est pour vous dire une seule chose, à savoir, priez avec foi, parce que vos prières sont écoutées, vos prières sont entendues par le Dieu qui écoute. Voilà. Dans la foulée, nous sommes appelés, je vous avais dit également mercredi dernier, que nous sommes appelés à cultiver l'habitude d'appuyer nos prières sur des promesses de Dieu. Hein? Ça aussi, je vous avais promis de regarder quelques exemples avec vous. Je verrai si je peux aujourd'hui, si le temps me le permettra. Seigneur, je m'appuie sur ta parole me dit telle chose, telle chose, telle chose, sachant que tu es un Dieu qui dit vrai, tu es un Dieu de vérité, alors je te demande telle ou telle chose. Jacob, je vous avais dit, avait cette habitude de prière. Daniel l'a fait aussi, dans le même Daniel 9 dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, et David l'a fait dans le psaume 119. Le psaume 119 est rempli de prières appuyées sur la parole de Dieu. Je vous disais mercredi qu'il faut aussi apprendre à prier avec hardiesse. Mais ne sautez pas quand vous entendez à prier hardiesse, le mot hardiesse. C'est plutôt prier avec, on va dire, avec une sainte hardiesse, hein? Comme Moïse qui plaidait avec Dieu, comme Abraham qui plaidait avec Dieu. C'est un peu de ce genre d'hardiesse il est question. Quoi au fait que Dieu est parlable? Quoi au fait que Dieu est conscientisable? Quoi au fait que Dieu est sensibilisable? Hein? Dieu peut être sensibilisé. Hein, il y a des mots que vous dites sans faire de chantage. Hein. Bon, Dieu ne va pas prendre un chantage. Ce n'est pas une question de faire du chantage. Non, ce n'est pas un chantage. C'est d'être rationnel, d'être clair, d'être précis, d'être véridique. De dire au Seigneur, non, non, pour ta gloire, pour ta gloire, Seigneur, fais-le. Même si vous ne pouvez pas faire le pour moi, fais-le pour ta gloire. C'est un genre d'adresse comme ça. À cause de ton nom. Moi, j'ai confiance en toi. Mais à cause de ceux qui doutent de ta capacité, de ton pouvoir, de ton autorité, Seigneur, fais-le. Voilà un genre d'exemple de prière avec hardiesse. Et j'avais donné l'exemple de Moïse que je ne redonnerai pas pour ne pas alourdir la récapitulation, pour ne pas trop l'allonger. Voilà pour prier avec hardiesse. Il faut apprendre à faire tout cela. Croyez-moi, c'est ça qui rend une vie de prière efficace. C'est pas inutile ce qu'on fait là. Il faut aussi adresser à Dieu des prières précises. Il faut apprendre l'habitude d'adresser à Dieu des prières précises. Il s'agit d'exposer à Dieu nos cœurs, nos vies, notre intériorité. De toute façon, il les connaît. Hein? J'ai donné des exemples. Il ne suffit pas de dire, Seigneur, pardonne-moi mon péché ou mes péchés, qu'en faire se peut quand on se rappelle, quand on parle de péché récent, il faut le nommer. C'est un exemple de comment il faut être concret et précis avec Dieu dans nos prières. Nommer les péchés dont nous sommes conscients. Il ne suffit pas de dire au Seigneur que nous sommes dans l'inquiétude. Il faut lui exprimer nos sujets d'inquiétude. Seigneur, j'aimerais vous parler là. Avec telle petite, avec tel monde, avec telle situation, Seigneur, je suis inquiet. Viens au secours de mon inquiétude et délivre-moi. Oh non, Seigneur, du train que ça va mes finances, je suis inquiet de ne pas pouvoir joindre les deux bouts. Je crains de ne pas pouvoir joindre les deux bouts. Viens au secours de ma crainte, de ma faiblesse et délivre-moi. Envoie-moi des sous, envoie-moi un travail, par exemple. C'est des exemples, OK? De comment on peut être précis dans nos prières adressées à notre Dieu. J'ai donné aussi là aussi l'exemple d'Ésaïe en Genèse 32, verset 11, par rapport à ses craintes, sa peur, du fait que Jacob, pardon, de Jacob, du fait que Ésaü le poursuivait, comment il était précis dans ses prières. Paul a précisé dans 2 Corinthiens 12, verset 8, trois fois j'ai prié pour qu'il enlève cette écharpe. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Il a été précis dans sa demande au Seigneur. Rien n'est jamais trop grand pour être exposé à Dieu en détail, et rien n'est jamais trop peu ou trop petit pour être exposé à Dieu et clairement, précisément dans nos prières. Pensez à quand vous allez à l'hôpital ou bien allez voir votre médecin de famille ou à l'urgence, je ne sais plus. Bref, quand vous allez voir un médecin, hein, quand vous allez consulter un médecin. Quand vous allez consulter un médecin, vous ne lui dites pas, je suis malade, docteur. Vous lui dites que j'ai mal aux pieds, par exemple. J'ai mal à la gorge, j'ai senti gorge la piquer, docteur. J'ai senti l'aime parler, j'ai senti gorge la gorge fait mal. Pas seulement dire, vin la kaou, parce que malade. Vin la, parce que malade. C'est pas ça dit. Ou bail des précisions de me sentir dans la douette, moyen un petit pouce là. Ou bien, me sentir qu'à piquer mal à l'intérieur, me sentir courbé, ou là. Hein? Donc, c'est de ça qu'on est en train de parler. Alors, le malade qui dit à son médecin, docteur, je souffre. Madame, pourquoi êtes-vous venue ici aujourd'hui? Mais parce que je souffre. Oui, mais vous souffrez? Oui, je souffre, docteur. Mais je suis malade, comme je le disais. Ça marche pas. Ça suffit pas de dire au docteur, je souffre. Bon, j'ai mal, oui, mais au moins. Ou vous avez mal au moins. Voyez-vous? Donc, il faut, de la même manière qu'il est important de donner des précisions, des détails aux médecins quant à nos souffrances, quant à nos douleurs, quant à nos maladies, mais de la même manière qu'il est important de donner des détails à notre Dieu lorsque nous nous agenouillons pour chercher sa face dans la prière. Et à la certitude absolue que notre Dieu est à l'écoute, qu'il est un Dieu qui sauve, qu'il est un Dieu qui guérit, qu'il est un Dieu qui console, qui touche, qui élève, qui purifie, qui sanctifie. Alors, dans la grâce, hein, je demande au Saint-Esprit de m'apprendre à être précis, à être précise dans mes prières. Une femme qui dirait à son ami, chérie, je suis malheureuse. Ou l'inverse. Un mari qui dirait à sa femme, chérie, je suis malheureux. Ça veut rien dire. Au moins, c'est un début, ça attire l'attention. Mais on peut pas parler là. On peut pas parler. Hein? Oui ou non. On peut pas parler. On peut dire un non. Oui, ça attire l'attention. Ça attire mon attention. Hein? Mais on peut pas dire rien là. Donc, quand tu commences à donner les causes de ton malheur, pourquoi tu es si malheureux, pourquoi tu es si malheureuse, qu'est-ce que tu as vécu dans ton passé, dans ton enfance, dans ta famille, qu'est-ce que tu as vécu dans la journée, voilà, avec qui monde, ou avec quelles circonstances sont perdues, quelles sont vos pertes, quelles sont vos déceptions. Là, au moins, on commence clair, tout comme si tu étais allé chez un psychologue, même bagaille. On t'a dit comment sentir. Un enfant qui dirait à son père, papa, j'ai de la peine. Et il dit rien de plus. Le père serait attristé parce que c'est le père ou la mère. Puis elle serait attristée, elle aussi. Et ça attirerait son attention. Elle voudrait creuser un peu plus pour savoir pourquoi son fils ou sa fille a de la peine. Mais on s'entend que il va pas qu'on aider là, parce que pas qu'on a rien là, pas que Dieu ne sait rien. La comparaison n'est pas raison, hein. C'est pas que dans le cas de Dieu il sait rien si tu lui donnes pas de détails, mais il veut des détails. L'Écriture, toutes les prières qu'on voit dans l'Écriture, c'est des prières bourrées de détails. Toutes les prières qu'on voit dans l'Écriture, c'est des prières remplies de détails, de précisions. Dieu sait tout. Avant même qu'on lui dise qu'est-ce qu'on veut, de quoi on souffre, quelles sont nos sources d'inquiétude, il le sait. Mais c'est pas parce qu'il le sait, c'est parce qu'il le sait qu'on n'a pas besoin de lui raconter. Il faut lui raconter. Lui raconter, c'est ce qui exprime que nous avons foi en lui. C'est pour ça qu'on raconte à Dieu. Pourquoi on prie? On prie à Dieu pour exprimer notre dépendance à Dieu et notre foi en Dieu. On prie à Dieu pour dire à Dieu qu'on sait qu'on ne peut pas vivre sans lui, qu'on sait que c'est lui qui a tout, qui donne tout. Voyez-vous? Donc, on ne va pas capitaliser sur le fait qu'il sait tout, puis qu'on va être bref ou brève. Ça ne marche pas. Et alors voilà, il faut donner des précisions. Jésus, c'est l'époux de notre âme. Hein? Ah, Jésus, c'est l'époux de notre âme. Jésus, c'est notre médecin. Pourquoi me parler de époux, me parler de médecin? Mais parce que dans mes illustrations de tout à l'heure, j'avais dit qu'un mari ne dirait pas à une femme, je suis malheureux, ou l'inverse. Hein? Et quand on s'en va chez le médecin à l'urgence ou chez le médecin de famille, on lui donne des détails. Voyez-vous? Alors, je suis en train de vous dire que, mais avec le véritable époux, avec le vrai époux, mais ça doit se passer comme ça se passe avec l'époux ordinaire, l'époux humain, avec l'époux céleste. Ah, c'est comme ça doit se passer comme ça à plus forte raison. Sans prétexter le fait qu'il connaît tout déjà. Avec le vrai médecin par excellence, le médecin de notre âme, le médecin de notre cœur, le médecin de notre corps, eh bien, ça doit se passer de la même manière et davantage. Le Jésus est le berger de son peuple. L'Écriture dira qu'il est le troupeau de son pâturage. Alors, il veut tout savoir. Il veut que tu lui racontes tout, même s'il sait tout plus tôt. Alors, nous sommes appelés à montrer à Dieu que nous reconnaissons, eh bien, qu'il est celui qui prend soin de nous en nous exprimant sans réserve dans notre rapport avec lui nos secrets les plus profonds, ah, nos déceptions les plus profondes, nos besoins les plus intimes, nos ressentiments les plus intimes. Nous prenons le temps de lui exposer tout cela, frères et sœurs. Gloire à notre Dieu. Pour aujourd'hui, nous allons voir un autre élément, une autre attitude à privilégier dans notre vie de prière. Vous le faites très bien à l'oratoire. On était encore tout à l'heure là-dedans. C'est la prière dans la reconnaissance. Ah, la prière dans la reconnaissance. Louer Dieu et prier Dieu. C'est des choses importantes dans la vie chrétienne. Dans la Bible, il y a une relation intime entre la prière et la louange. Appelez-le comme vous voulez, l'action de grâce, l'honneur à Dieu, la glorification du nom de Dieu, et j'en passe. L'action de grâce à sa place dans une vie de prière conséquente. L'action de grâce doit avoir sa place dans une vie de prière qui se veut efficace. L'action de grâce a sa place, a son importance dans une vie de prière qui aspire à la maturité spirituelle. Gloire à notre Dieu. Avez-vous remarqué comment dans Philippiens 4, verset 6, Paul mêlait ces deux démarches ensemble? Le fait que la prière et la louange, l'action de grâce sont inséparables, Paul dira à Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La louange est inséparable de la prière. Une vie de louange, une vie d'adoration, une vie de glorification de Dieu est inséparable d'une vie de reconnaissance ou bien d'une vie d'action de grâce. Il dira lui-même, le même saint Paul dira, Colossiens 4, verset 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Ne commettez pas l'erreur, l'oratoire. Vous ne le faites pas déjà. Vous ne le faites pas, OK? C'est bien. Ne commettez pas l'erreur de séparer une vie de prière avec une vie de louange, de reconnaissance et d'action de grâce à l'endroit de Dieu. Les prières viennent valider nos actions de grâce et nos actions de grâce viennent valider nos prières. Gloire à notre Dieu. Dieu aime particulièrement écouter les prières de ceux qui lui sont reconnaissants. Seigneur, j'ai un paquet de choses à te demander cette année, ce mois-ci, cette journée, au cours de ce service de prière. Dans ce temps de prière que je vais passer avec toi dans ma chambre, dans mon salon, dans mon sous-sol, j'ai un paquet de choses à te demander. Mais avant, je veux reconnaître, je veux te louer, je veux te dire merci de ce que c'est grâce à toi que je ne suis pas en train de faire route pour l'enfer éternel. Béni sois-tu, Seigneur, loué soit ton nom, exalté soit ton nom, gloire à toi pour cela, éternel Dieu des armées. C'est par grâce que je suis en train de faire route pour la nouvelle Jérusalem. C'est par grâce, je veux reconnaître, avant de te demander quoi que ce soit, avant de m'apitoyer sur mon sort de ce que je n'ai pas quoi que ce soit, je veux prendre le temps de te dire merci, de louer ton nom, d'exalter ton nom, de ce que c'est grâce à toi que je fais route vers le ciel en ce moment même. C'est par grâce que je vis dans un pays où j'ai la liberté de t'adorer. Je peux marcher avec une Bible dans ma main sans crainte d'être arrêté. Tout près de nous, dans beaucoup de pays en Afrique, on ne peut pas faire cela. Alors, Seigneur, je t'aime pour cela. Je te loue pour cela. J'exalte ton nom pour cela. Vous ne commandez rien, non? Vous ne commandez rien, non? Oh, by gloire. Oh, by action de grâce. Parce que tu m'as appelé par ton Saint-Esprit. Gloire à ton nom. Parce que tu m'as scellé de ton Saint-Esprit. Gloire à ton nom. Parce que tu ne m'as pas livré à moi-même. Gloire à ton nom. Seigneur, je sais que c'est par miséricorde que je vis encore et que j'ai des occasions de glorifier ton nom. Ben, bon Dieu, gloire. Avant même de commencer, Madel, quoi que ce soit pour Adéa, pour journée, hein, pour moi, on me sait connaître. Nous devons avoir les pensées de grâce à l'esprit, frères et sœurs, lorsque nous nous adressons à notre Dieu, lorsque nous parlons à notre Dieu, lorsque nous nous tournons vers notre Dieu. Nous devons avoir ces pensées de bénédiction, ces pensées de grâce, ces pensées de bienfaits pour lesquelles nous glorifions, nous louons, exaltons notre Dieu, nous lui rendons des actions de grâce. Il ne faut jamais commencer à prier Dieu sans bénir Dieu pour ses grâces abondantes qu'il a déversées sur nous. Je répète, il ne faut jamais commencer à prier Dieu sans d'abord lui remercier, reconnaître, eh bien, ses grâces qu'il a déversées sur nous, frères et sœurs, son amour qu'il nous donne, qui dure éternellement, cet amour éternel dont il nous aime, il nous faut le préciser dans nos prières. On le dit, on le répète. Seigneur, merci parce que tu m'aimes d'un amour incomparable. Seigneur, merci de ce que tu m'aimes d'un amour, hein, eh bien, éternel. Seigneur, merci de ce que tu m'aimes d'un amour désintéressé, Seigneur. Merci de ce que tu ne m'aimes pas sur la base de mes œuvres. Tu m'aimes sur la base de ton amour. Gloire à toi. Et pour marcher dans Kaila. Juste sorti pendant 1 heure de prière. Et puis après, vraiment, depuis toi, vraiment, demain, vraiment, après-demain. Les saints qui sont remplis de reconnaissance à l'endroit de leur Dieu sont plus susceptibles d'être exaucés dans leur prière et de grandir en maturité spirituelle. Les saints remplis de reconnaissance à l'égard de leur Dieu pour ce que Dieu a fait dans leur vie sont plus susceptibles de développer une vie de prière efficace. Croyez-moi, l'orateur. L'apôtre Paul commence toutes ses lettres par des actions de grâce. Il doit y avoir une raison pour cela. Paul a dit, le secret donc, que je vous partage, Paul l'a découvert avant moi, avant nous, hein. Et c'est sur la base des écrits du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament que je vous partage ce secret ce soir. Ah! Si nous voulons être des lumières pour Dieu, si nous voulons briller pour Dieu d'une manière vive et éclatante, si nous voulons avoir encore une fois une vie de prière efficace, si nous voulons croître en maturité, prions que Dieu nous fasse la grâce de nous attacher à lui rendre des actions de grâce, frères et sœurs, mes bien-aimés, avant toutes choses et pour toutes choses. Je répète, avant toutes choses et pour toutes choses. Gloire à notre Dieu. Deuxièmement, pour ce soir, en plus de prier dans la reconnaissance, de fonder notre vie de prière sur l'action de grâce, sur la reconnaissance, eh bien, nous devons aussi, pour avoir une vie de prière efficace, une vie de prière nous permettant de croître en maturité spirituelle, nous devons prendre l'habitude de prier dans la plénitude du Saint-Esprit. Gloire à notre Dieu. Nous devons prendre l'habitude de prier dans la plénitude du Saint-Esprit. Ah, c'est important. La parole de Dieu nous appelle à prier par l'Esprit. Prier par l'Esprit signifie prier dans la plénitude de l'Esprit. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, tout ce que nous demandons à Dieu, frères et sœurs, eh bien, Dieu nous l'accordera si ça rentre dans sa volonté pour nous. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire lorsque nous sommes contrôlés par le Saint-Esprit, contrôlés de fond en comble, dans les plus petits recoins de notre vie, c'est ça, être rempli de l'Esprit. C'est contrôlé par l'Esprit, animé par l'Esprit, possédé par l'Esprit, dirigé par l'Esprit, gouverné par l'Esprit. Dans les plus petits recoins de notre vie, c'est alors que nos désirs ont tendance à rencontrer le désir de Dieu pour nous. C'est alors que notre volonté a tendance à rencontrer la volonté de Dieu pour nous. Lorsque nous nous laissons diriger par le Saint-Esprit, notre vie et notre prière, eh bien, nous pouvons être certains de recevoir de Dieu des réponses à nos prières, frères et sœurs. Cela ne veut pas dire que toutes les prières que vous avez faites, que moi j'ai faites, pour lesquelles nous n'avons pas encore de réponse, c'est parce que nous ne sommes pas remplis par l'Esprit. Non, cela ne veut pas dire cela. Vous l'aurez compris. Dieu a son plan d'amour, hein, par-dessus tout. Mais qu'à cela tienne, c'est une des conditions de la prière exaucée. OK? Alors, l'apôtre Jean dira, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, la plupart du temps, c'est par l'Esprit. C'est en étant guidé, dirigé, soutenu par l'Esprit que nous pourrons demander plus souvent qu'autrement quelque chose selon sa volonté. Et Jean de dire, il nous écoute. Et nous, si nous savons, dit Jean, qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée selon 1 Jean chapitre 5, les versets 14 à 15. Lorsque nous prions dans la plénitude du Saint-Esprit, donc lorsque nous prions selon le Saint-Esprit, nos désirs, la plupart du temps, deviennent conformes à la volonté de Dieu pour nous. Le Saint-Esprit qui vit en nous, en plus de tout cela, le Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous, il intercède pour nous. Gloire à notre Dieu. Il prie, il intercède pour nous auprès de Dieu, connaissant les pensées de Dieu, sondant les pensées de Dieu, il prie pour nous. Gloire à notre Dieu. Et avec ça, nous recevons les grâces et les bénédictions spéciales de Dieu parfois, sans même les avoir demandées. Il y a de ces bénédictions. Avez-vous remarqué qu'il y a de ces bénédictions que vous avez? Vous ne les avez même pas demandées à Dieu. Bon, menti. Recevoir, imaginez vous demander là à mon Dieu. Qu'on est ignorant, qu'on est assez pour demander mon Dieu tel. Cela ne m'a pas frôlé l'esprit. Ah, il y a de ces choses que Dieu m'apporte. Cela ne m'avait jamais foulé l'esprit pour demander à bon Dieu de tout limiter. Mais l'aime garder moi, bon Dieu, bon moi, puisqu'il donne souvent au-delà de nos espérances. Et mais ce n'est pas par hasard. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné ça. Hey, gloire à notre Dieu. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné ça pour vous, parce qu'on est tellement soumis au Saint-Esprit, ou tellement contrôlé par le Saint-Esprit, et cet Esprit plaide sa cause auprès du trône de la grâce. Gloire à notre Dieu. Voilà pourquoi, lorsque les disciples s'inquiétaient pour peu de choses, Jésus leur disait de ne pas s'inquiéter. Et le Christ de rajouter, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Mais oui, parce que l'Esprit les porte au conseil divin. Parce que le Saint-Esprit intercède pour toi. Le Christ prie pour toi. Le Fils prie pour toi. L'Esprit intercède pour toi. Ou pas n'importe qui monde. Gloire à notre Dieu. Incidemment, Saint Paul dira, Romains 8, versets 26 à 27, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Je répète, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Pourquoi faut-il dépendre du Saint-Esprit? Pourquoi faut-il être contrôlé par le Saint-Esprit? Pourquoi faut-il être soumis au Saint-Esprit? Pourquoi faut-il marcher selon le Saint-Esprit? Pour toutes ces raisons-là, c'est lui qui nous aide dans notre faiblesse. C'est lui notre avocat, c'est lui notre paraclet. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Toutes sortes de demander au Lord. C'est l'esprit à connaître plus par ceux qui ont besoin, qui sont à demander, ou peut-être même pas demander. Gloire à notre Dieu. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander, l'oratoire, dans nos prières. Ah, c'est pas ça que Bono qui dit, lui. C'est Romains 8, oui. Verset 26 à 27. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà l'avantage que possède le chrétien dirigé par le Saint-Esprit, le chrétien soumis par le Saint-Esprit, le chrétien marchant par le Saint-Esprit. Voilà votre avantage. En plus de diriger votre vie sur le chemin de la vie, pour ne pas chuter, en plus d'attirer votre attention sur la volonté de Dieu chaque jour, pour savoir les décisions à prendre qui glorifient Dieu, qui sont chrétiennes, qui sont bibliques, les actions à poser qui glorifient Dieu. Mais il intercède pour toi. Ça te besoin encore. Regardez bien comment l'Écriture est juste, équilibrée. Il nous dit de prier, persévérer dans la prière. Nous avons lu un passage tout à l'heure, on n'est même pas encore arrivé au passage, où le Christ donne une illustration, une parabole, pour enseigner la persévérance dans la prière. C'est ça, moi, mais avec mon Dieu. L'idée, ce n'est pas être des oisifs, d'être des fainéants. Nous devons gémir dans la prière, et même si nous savons que le Saint-Esprit intercède pour nous, même si nous savons que le Saint-Esprit prie pour nous, nous devons faire notre part. C'est ça, moi, mais avec Dieu. Dieu responsabilise ses enfants. Gloire à notre Dieu. Dieu responsabilise son Église. Nous gémissons en prière, nous crions devant mon Dieu, nous pleurons, nous pleurons, nous pleurons, changer ses vêtements, sur les genoux, tellement nous avons des problèmes, nous avons des douleurs, nous avons des souffrances dans la vie, tellement nous devant des gros de l'eau, des gros montagnes. Et puis même en faisant cela, nous savons que le Saint-Esprit nous n'en pas là, la main c'est des poudres. Pour le capable de demander ça, nous ne connaissons pas pour nous demander. Pendant nous avons sur les genoux, nous avons prié, nous sous sac, nous. Et puis, il y a un peu de bagarre, nous t'a demandé, nous ne connaissons pas pour nous demander. Où est-ce comment nous avons nous choyé? Voyez comment avec nous sommes bien servis. Voyez comment avec nous, moi-même avec vous, nous sommes bénis, nous sommes gâtés dans le Seigneur par sa grâce. Gloire à notre Dieu. Une autre attitude à privilégier, pas oublier. Pas oublier, non. Priez dans la reconnaissance, priez dans la plénitude du Saint-Esprit, ou bien selon l'Esprit, ou bien par l'Esprit, tout simplement. Mais également, nous devons prier de manière diversifiée. Ah, précise. Précision, diversification. Nous devons prier de manière diversifiée. L'oratoire de Dieu. Si vous voulez grandir, ou bien l'oratoire, si vous voulez continuer à grandir dans la spiritualité, dans la maturité spirituelle, donc, eh bien, vos prières ne peuvent pas être juste des prières, je dirais, les mêmes prières tout le temps, les mêmes prières chaque jour. Seigneur, bénis maman, bénis papa, bénis frère, bénis soeur, bénis Amen. Non, il faut diversifier nos prières. Gloire à notre Dieu. Le petit enfant qui a l'habitude de dire, Seigneur, bénis maman, bénis papa et bénis-moi, Amen. La Bible est dormie, ça ne suffit pas. Il faut varier nos prières. Les mêmes avec nous, on a préparé nourriture la caille là. Nous varier nourriture. Hein? Nous assurer nous qu'il y a différentes sortes de protéines en nourriture. Nous manger tel bagage aujourd'hui, demain nous manger tel autre bagage, après demain nous manger tel autre bagage. Vous connaissez. La diversité, la variété plaît à Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu de diversité. Pas la diversité malsaine que nous entendons dans la paléo, mais regardez la nature et vous verrez à quel point le Dieu dont nous sommes les serviteurs et servantes est un Dieu de diversité. Regardez les populations mondiales et vous verrez à quel point le Dieu que nous servons est un Dieu de diversité. Regardez toutes les langues qu'il y a et vous verrez que le Dieu que nous servons est un Dieu de diversité. Regardez tous les tempéraments, tous les caractères qu'il y a et vous verrez que le Dieu, etc. Alors, les prières que nous adressons à Dieu doivent être diversifiées également, frères et sœurs. Ah, je résume ça pour vous-même. Que tu as développé, c'est correct. Comment on diversifie nos prières? On a suivi tout à l'heure là, on a prié avec vous là, hein, branché avec vous là, on fait ça très bien. À chaque occasion de prière, vous diversifiez prière. Vous priez, vous faites prière de confession, vous devez faire prière d'action de grâce, j'en ai parlé tout à l'heure, ou bien de louange, vous devez apprendre à faire prière pour être secouru lors en danger. Psaume 3, par exemple. Vous devez apprendre à faire prière pour les problèmes de la vie quotidienne, vos besoins spirituels, vos besoins de croissance en maturité spirituelle. Le psaume 25, par exemple. Le psaume 102, par exemple. Prière de confession, psaume 32, psaume 51. Daniel, chapitre 9. Et j'en passe. Prière de pétition, vous connaissez. Prière d'intercession, vous connaissez. Vous variez prière. Pourquoi faire un jour, on ne pas dire un mot pour tout. Et pour mon demander seulement, c'est biblique. Dieu aime ça. Et un chrétien qui veut grandir doit apprendre à faire ça. On va son jour, non pas, je m'en dois un pour vous. C'est pour mon demander. Ni mon nous connaît, ni mon nous pas connaît. Ni mon qui remonte, ni mon qui raille. C'est pour mon demander. Pour faire mon coup étranger. Tout homme fait ça là. On va demander un pour vous. On connaît aujourd'hui, c'est pour mon demander seulement. Il y a telle saison privée, on connaît, c'est loin seulement fait. Des journées entières. Telles ces pétitions seulement. Que tu envoies les prières. Que tu envoies les prières. Parce qu'il est de la volonté du Seigneur que nos prières soient variées. Qu'on ne prête pas tout le temps la même prière. Ou pas qu'à grandir. C'est bon qu'on ne pas toucher bon Dieu. Bon qu'on ne pas montrer ou dépendre de bon Dieu. Ou pas montrer au combat ou pas comprendre. Soyez bénis. Il est 21h03. Soyez bénis.
Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Pasteur reprend la parole pour les mots de la fin.